avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.
Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pendant que les diplomates sont au chaud à Abu Dhabi, les Ukrainiens sont une nouvelle fois sous les bombes et dans le froid.
Des frappes de drones et de missiles russes sur Kiev et Kharkiv, privant leurs habitants de chauffage, d'accès à l'eau parfois. Alors qu'en coulisses, les États-Unis chapeautent des discussions entre Russes et Ukrainiens aux Émirats Arabes Unis. Une marée humaine dans les rues de Minneapolis. Des milliers de personnes réunies contre la police de l'immigration de Donald Trump, alors que la mort de René Good est encore dans toutes les têtes. Maintenant, c'est le visage de Liam, 5 ans, qui aurait été arrêté par l'IS qui inonde les réseaux sociaux. Le micro de RFI dans les rues de Téhéran ensuite. La correspondante de la rédaction en espagnol a réussi à nous envoyer des témoignages et donc les premiers récits de la répression sanglante envers les manifestants. Et puis parole aux électeurs japonais, que pensent-ils de la manœuvre politique de la première ministre ? Sanae Takaichi a provoqué l'organisation de législatives anticipées. Nous sommes à Tokyo.
Cela faisait plus de 3 ans que ce n'était plus arrivé, des délégations russes et ukrainiennes autour de la même table.
À Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, sous l'égide des États-Unis, première discussion hier, un deuxième jour est prévu ce samedi. Peu de choses filtrent. Le président Volodymyr Zelensky dit avoir été tenu informé heure par heure des avancées. Objectif affiché, trouver une issue à la guerre entre les deux pays. Mais la Russie le veut-elle vraiment ? Cette nuit, Moscou a une nouvelle fois bombardé Kiev, la capitale, mais aussi Kharkiv. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour Nemo.
À Odessa pour RFI, Théo, le but est toujours de rendre les villes de plus en plus invivables.
Oui, cette nuit, la Russie a méthodiquement écrasé tout ce qu'il restait de l'infrastructure électrique des villes visées. Le mode opératoire, Nemo, est toujours le même, avec des centaines de drones qui s'abattent sur Kharkiv et Kiev en quelques heures avant l'arrivée de missiles balistiques, aussi précis que des taupes. Ils datent de l'époque soviétique. Ils ne se contentent pas de frapper les infrastructures, mais aussi les civils, volontairement, comme par erreur. Le bilan de cette nuit reste incertain. L'attaque est toujours en cours, mais le maire de Kharkiv rapporte qu'une maternité, un foyer pour réfugiés et un hôpital ont été pris sous le feu russe. À Kiev, plus personne ou presque n'a d'électricité, plus de chauffage une nouvelle fois, alors qu'il commençait à revenir. Des incendies se sont déclarés de part et d'autre de la capitale. Rappelons tout de même que ce n'est pas normal dans un conflit de frapper des infrastructures énergétiques. C'est considéré comme un crime de guerre dans le droit international. Reste à savoir quelles conséquences aura cette nuit d'enfer dans les négociations en cours. Dans ce deuxième jour, des premiers pourparlers entre Russes et Ukrainiens depuis 2022.
Merci Théo Renaudon en direct d'Odessa pour RFI.
Aux États-Unis, le Pentagone a publié sa nouvelle stratégie de défense.
Et on pouvait s'y attendre avec les différentes déclarations de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche il y a un an. L'armée américaine compte se concentrer davantage sur la sécurité intérieure du pays et sur la dissuasion vis-à-vis de la Chine. Dans le document, on peut lire que Washington apportera toujours un soutien essentiel, mais plus limité, notamment à ses alliés européens qui, je cite, assumeront la responsabilité de leur propre défense.
L'armée américaine qui a mené une nouvelle frappe dans le Pacifique.
Dans le viseur, un navire utilisé par des trafiquants de drogue présumés. Il empruntait des routes utilisées pour le narcotrafic, dit le commandement américain pour les Caraïbes, qui précise que le bombardement a fait 2 morts.
Le froid glacial ne les a pas arrêtés. Des milliers de manifestants dans les rues du Minnesota hier.
Ville qui vit au rythme des protestations depuis la mort de René Good, cet automobile abattu au volant de son véhicule par un agent de la police de l'immigration voulu par Donald Trump. Les images de la vidéo avaient fait le tour du monde et depuis hier, c'est une photo qui inonde les réseaux. Celle de Liam, 5 ans, sac Spider-Man sur le dos, coiffé d'un bonnet bleu, aux oreilles de lapin, regard apeuré. Les versions s'opposent sur son sort. Certains disent qu'il a servi d'appât, d'autres que son père, originaire d'Équateur, a pris la fuite. Toujours est-il que les habitants étaient réunis contre cette police et ont montré leur unité. Le reportage d'Edouard Maille, envoyé spécial d'RFI à Minneapolis.
Entre les immeubles du centre-ville, le cortège remplit la rue. Des pancartes contre Donald Trump et ICE. Lisa montre le sifflet qu'elle utilise pour lancer l'alerte si elle voit des agents de la police de l'immigration.
Why are they Pourquoi sont-ils ici? Ils sont ici car le gouvernement Trump déteste tout ce que représente le Minnesota. Il déteste tout ce qui est bon et juste.
Tom Hayne, lui, s'alarme du tournant politique actuel.
Le pays se dirige vers l'Allemagne nazie des années 30. Si vous n'êtes pas blanc, il faut montrer vos papiers quand vous sortez. Ils mettent des gens en cage et arrêtent des petits-enfants. Ils ne font pas les choses de manière légale.
Des manifestants dans son cercle, Chris, un citoyen américain, tient un drapeau mexicain, pays où il est né. Il remercie les manifestants d'être venus.
Ils sont géniaux et nous sommes reconnaissants.
Et il remercie spécialement Renee Good, la femme tuée par un agent de ICE.
Pour ce qu'elle a fait pour nous. Et nous n'allons pas l'abandonner. Nous allons nous battre pour elle jusqu'à ce que ça s'arrête. Nous allons rester là quand il fera froid ou quand il fera chaud, peu importe. Nous allons rester unis en tant que pays, car l'Amérique est un pays génial.
Chris secoue sa main pour la réchauffer, puis reprend son drapeau et le brandit. Édouard Maille, Minneapolis, RFI.
C'est ce soir que prend fin l'accord de cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les forces démocratiques en Syrie.
À 20h locale et après deux semaines d'offensive menée par Damas dans le nord-est du pays, Damas qui devrait récupérer trois localités de l'extrême nord où sont actuellement retranchés les FDS à majorité kurde, à savoir Asaké, Kobané et Kamishli. Ça, c'est selon l'accord négocié il y a 4 jours par les États-Unis. Nous sommes en Syrie pour en parler dans le prochain journal dans une heure.
Alors que les premiers témoignages de la répression en Iran nous parviennent.
Grâce au retour partiel des communications, la répression sanglante des manifestations par le régime de Téhéran a fait des milliers de morts. Trop difficile encore d'avoir des chiffres précis. Catalina Gomez-Angel, correspondante de la rédaction espagnole de RFI à Téhéran, a réussi à nous envoyer quelques témoignages. C'est Abla Junaidi qui s'est chargée du récit.
Voilà maintenant près d'un mois que Téhéran et son bazar se sont soulevés contre le régime. La crise économique a été l'étincelle. À bord de son taxi jaune, Fatema, un nom d'emprunt, raconte à la correspondante de RFI en espagnol les longues journées commencées à 6 heures du matin et qui ne suffisent plus, dit-elle, à joindre les deux bouts.
Je vis seule. J'aide mes parents, mais parfois j'ai honte devant eux, car je n'en fais pas assez.
À bord, Fatema voit passer toutes les couches de la population iranienne. Et à partir du 8 janvier dernier, elle a vu grandir la mobilisation dans les rues, puis s'abattre la violente répression. Le 10 janvier, elle se trouve près de la morgue improvisée de Karizak, au sud de Téhéran, où les corps s'amoncellent.
Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y avait un très grand camion où se trouvaient les corps des morts. Ils étaient comme des moutons. Ils ont attrapé les sacs, comme ça, par les coins, et ils les ont jetés par terre.
Avec les communications toujours entravées par le régime iranien, difficile de connaître le bilan précis de cette répression, Iran Human Rights dit avoir pu vérifier la mort de 3428 personnes. L'ONG basée en Norvège estime cependant que le bilan réel pourrait dépasser les 25 000 morts.
Abla Junaidi, Téhéran qui prévient, hein, toute attaque, qu'elle soit limitée, illimitée, chirurgicale ou cinétique, quel que soit le terme employé, sera considérée comme une guerre totale à son encontre. Parole d'un haut responsable iranien qui a tenu à rester anonyme. Alors que le président américain Donald Trump a fait savoir qu'une armada navale était en route vers le golfe Persique, nous espérons que cette montée en puissance n'est pas destinée à une confrontation réelle, poursuit le haut responsable. Notre armée est toutefois prête pour le pire des scénario, fin de citation.
En Ouganda, 30 membres de l'opposition tués, plus de 2000 partisans arrêtés en marge de la présidentielle de la semaine dernière.
Alors ces chiffres, ils sont avancés par Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée, mais aussi fils de Yoweri Museveni, déclaré vainqueur du scrutin la semaine dernière et qui enchaînera un 7e mandat consécutif. Des chiffres qui pourraient être bien plus élevés que ceux officiellement fournis, c'est ce que nous dit ce matin un analyste politique qu'on ne nommera pas pour raison de sécurité. Il n'est d'ailleurs pas surpris, puisque la répression, nous dit-il, se répète à chaque élection.
C'est une tendance qui s'accentue. Depuis que l'Ouganda a adopté une nouvelle constitution en 1995, nous avons eu une série d'élections régulièrement tous les 5 ans. Et à chaque fois, la violence a augmenté. La trajectoire est donc très claire. Ensuite, particulièrement pour la communauté internationale, quand ils entendent le mot élection, ils pensent que ce sont vraiment des élections, c'est-à-dire une activité civique. Alors qu'en Ouganda, les élections sont très largement une opération militaire. Enfin, ce qui est très frappant, c'est la manière dont la communauté internationale est devenue plus ou moins complice de la répression qui est menée. Auparavant, les partenaires de développement européens constituaient une sorte de frein aux excès du régime. Mais maintenant, je pense que le régime a très bien compris que ces pays sont plus attentifs aux affaires de leurs entreprises en Ouganda. Donc le régime voit qu'il peut mener sa répression sans que personne ne vienne freiner ce qui est en train de se passer.
Il était joint cet observateur par Magali Lagrange. Je vous rappelle qu'hier, nous recevions sur RFI Bobi Wine, principal opposant ougandais qui dénonce lui aussi de larges fraudes après la présidentielle. Vous retrouvez son entretien sur notre application RFI Pure Radio.
Au Japon, la première ministre a officiellement dissous la chambre basse du Parlement.
Provoquant ainsi des législatives anticipées fixées au 8 février prochain, Sanae Takaishi compte sur sa popularité grandissante pour consolider sa majorité, alors que la coalition gouvernementale n'est majoritaire que de justesse au Parlement, ce qui la rend fragile à chaque vote. Alors qu'en pensent les électeurs japonais? Bruno Duval est allé leur tendre son micro dans les rues de Tokyo. Reportage.
Depuis 3 mois, Sanae Takaichi répétait en boucle que le pays n'avait pas de temps à perdre avec une campagne électorale, la priorité étant de relancer l'économie et d'atténuer une inflation qui est à un niveau sans précédent depuis 30 ans. Elle a fini par changer d'avis. Dans les rues de la capitale, ses électeurs sont partagés.
Jamais notre pays n'avait été dirigé par une femme, donc il faut lui donner sa chance d'améliorer le sort peu enviable des Japonaises.
Les gens n'en ont rien à faire du discours de campagne. Ce qu'ils veulent, c'est que des décisions soient prises en vue d'améliorer leur vie quotidienne.
Je ne suis pas sûr que ce soit un choix très responsable. Il y a tant de défis à relever et au plus vite. En haut lieu, on ne peut donc pas se permettre de perdre trop de temps.
Je la soutiens à 100%, car elle, qui est issue d'un milieu plutôt modeste, se soucie des petites gens comme nous, de notre pouvoir d'achat notamment.
Les dernières législatives anticipées en date, fin octobre 2024, avaient tourné au fiasco pour la majorité. En dépit de ce fâcheux précédent, Sanae Takaichi, à son tour, se risque à un tel scrutin en raison de sa popularité. 70% des sondés disent approuver son action. Une telle cote de confiance qui, en plus, ne s'effrite pas de mois en mois, c'est du jamais vu depuis 20 ans pour un chef du gouvernement. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Lui est chef du gouvernement français. Sébastien Lecornu a dégainé hier un second 49-3 pour faire passer la partie dépenses du budget auquel LFI et le RN ont immédiatement répondu par deux motions de censure. Raphaël Delvolvé, les derniers hectomètres de ce feuilleton sont douloureux pour le Premier ministre.
Renier sa principale promesse n'est jamais aisé. Ce vendredi, devant un hémicycle vide, il y avait comme du spleen dans la voix de Sébastien Lecornu.
Le gouvernement est lucide. Il a fait du mieux qu'il pouvait avec les 1000 contraintes qui pèsent sur lui. Quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer.
Si les deux premières motions de censure ont échoué, l'heure reste au sérieux et à la prudence. Ce nouveau 49-3 porte cette fois sur les dépenses, un volet sur lequel la droite LR, décisive à l'Assemblée et majoritaire au Sénat, compte peser. Le député Nicolas Rey.
On continue de demander des économies au gouvernement, d'améliorer sa copie pour qu'elle soit la plus conforme possible à nos convictions et surtout à ce que la France a besoin aujourd'hui.
Les Républicains ou certains comme Michel Barnier, ancien Premier ministre, disent hésiter à censurer si des concessions ne sont pas faites dans les prochains jours. Comme le PS pressé sur sa gauche, LR subit aussi une pression venue, elle, de l'extrême droite, le député Jean-Philippe Tanguy.
Peut-être que les Républicains vont découvrir l'ampleur des dépenses qui continuent à augmenter. Je suis là pour essayer de convaincre qu'il faut vraiment empêcher l'adoption de ce budget.
À l'origine, Sébastien Lecornu voulait responsabiliser les parlementaires, mais c'est au final sur lui que tout repose, contraint au 49-3 et à de probables ultimes concessions pour survivre aux motions de censure de la semaine prochaine. Essouffler un grand coup après ce marathon.
Raphaël Delvolvé du service politique du RFI.
Et Nemo en piste pour le journal, bientôt 7h14 à Paris, à suivre notre grand invité international, Andrius Kubilius, le commissaire européen à la défense et à l'espace. Il répond aux questions de Daniel Valo dans 5 minutes. Mais d'abord les sports, Baptiste Leduc en football, le duel de haut de tableau ce samedi en Espagne entre le Real Madrid et Villarreal.
Le troisième de Liga, Villarreal reçoit le deuxième, le Real Madrid qui semble retrouver des couleurs après avoir changé d'entraîneur il y a 10 jours. Une victoire pénible contre Levante avant d'étrier Monaco en Ligue des Champions 6-1. Rien de très surprenant pour l'entraîneur de Villarreal, Marcelino, qui s'attend à affronter un adversaire redoutable.
D'habitude, quand il y a un changement d'entraîneur, on observe toujours une certaine réaction.
réaction chez les joueurs. Mais indépendamment des circonstances récentes, le Real Madrid reste une équipe avec un potentiel énorme. C'est une formation avec un joueur extrêmement décisif, d'autres très importants avec un très haut niveau mondial. Et quand ils sont dans un jour, ils sont concentrés, intenses et jouent collectivement, cela devient une équipe capable de battre n'importe qui. Nous, on va essayer de rivaliser, on joue à la maison et l'on croit qu'on peut vraiment leur poser des problèmes. Et creemos que podemos ponerles
las cosas muy difíciles. Villarreal, Real Madrid, coup d'envoi à 20h en temps universel.
Le deuxième sur la pelouse du troisième, c'est exactement la même affiche en Ligue 1.
Oui, Lens se déplace au stade Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille, laissant et hors son deuxième depuis hier soir seulement, puisqu'en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a battu Auxerre 1-0. Pour récupérer le fauteuil de leader, les Lensois devront battre l'OM dans un stade où Lens a gagné 4 de ses 5 derniers déplacements. Une victoire permettrait aussi aux Lensois de mettre les Marseillais à 11 points. De quoi faire de ce choc un tournant? C'est un peu tôt pour le dire, répond l'attaquant sans et hors Wesley Saïd.
Forcément, c'est une belle affiche. Après un tournant, je ne pense pas parce qu'il reste déjà pas mal de matchs ensuite, donc il faudra rester mesuré peu importe l'issue du match. Pour tout joueur de foot, il y a une motivation supplémentaire quand on arrive au Vélodrome, donc je pense que c'est aussi difficile pour eux parce qu'ils ont une grosse pression par rapport à leurs supporters. Donc non, en tout cas nous on va l'aborder de la même manière et on va essayer de faire le match qu'on a envie de faire. Forcément il y a de la confiance qui s'installe au fur et à mesure des victoires. Mais je sens une équipe très sereine, très humble, très déterminée. Et c'est ce qui nous anime depuis le début.
OM lance à 20h05 TU.
À présent du tennis, Baptiste, avec le troisième tour de l'Open d'Australie.
Chez les messieurs, le double tenant du titre et numéro 2 mondial Yannick Sinner a laissé filer un set, mais s'impose tout de même contre l'Américain Elliot Spitzeri et se qualifie pour les huitièmes de finale. Les derniers matchs du jour à Melbourne vont désormais mettre à l'honneur les anciens Marin Cilic, Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka qui débutent à l'instant son troisième tour contre Taylor Fritz. Le Suisse de 41 ans, retraité à la fin de l'année, est le joueur le plus âgé depuis 1960. À atteindre le troisième tour à Melbourne, une performance qu'il doit, selon lui, à son travail acharné.
C'est tous les sacrifices que j'ai, toute la discipline que j'ai constamment, encore et encore. Malgré l'âge, j'ai l'envie de toujours repousser mes limites. Je sais que je ne jouerai jamais au niveau que j'ai joué il y a 10 ans, mais le niveau que j'arrive encore à avoir, ça me convient largement et j'essaie toujours de repousser ça. Je me suis entraîné extrêmement dur cette off-season, physiquement, tennistiquement. J'ai vraiment fait le maximum pour me dire, voilà, c'est ma dernière, mais j'ai pas envie de faire une année d'adieu. J'ai envie de faire une année où je peux encore être compétitif et j'ai du plaisir, parce que moi le plaisir je l'ai quand je suis compétitif et quand je sens que je suis encore capable de faire des choses, et voilà.
Stan Wawrinka qui a remporté cet Open d'Australie en 2014, et puis deux rendez-vous pour terminer. D'abord du handball avec le deuxième match du tour principal de l'Euro pour la France face au Portugal aujourd'hui, et puis ne manquez pas Mondial Sport tout à l'heure à 16h10 temps universel. Hugo Moissonnier et ses invités vous parleront du Dakar, ce mythique rallye raid dont l'édition 2026 s'est achevée la semaine dernière.
Le journal des sports signé Baptiste Leduc.
RFI Matin.
Semaine après la signature officielle de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, les agriculteurs européens ne décolèrent pas. Ils se voient perdants de cet accord commercial. De nombreuses manifestations ont été organisées, notamment en France. La France où la grogne est d'autant plus forte que l'activité des agriculteurs est aussi perturbée par l'épidémie de dermatose nodulaire. Leurs rassemblements ont parfois été très tendus, hostiles envers les forces de l'ordre, mais aussi contre les journalistes. Certains ont été agressés, intimidés. Ils témoignent auprès d'Hugo de Waha pour notre chronique Menace sur l'information.
Valentin Larquier, 28 ans, est journaliste pour la radio RTL. Un jour de décembre, il se rend, comme il en a l'habitude depuis le début de l'épidémie de dermatose nodulaire, sur un barrage d'une autoroute à la rencontre d'agriculteurs.
J'ai reconnu un éleveur qui a été touché par la dermatose nodulaire. J'essaie d'aller lui dire bonjour, et là, il y a un de ses amis qui me hurle dessus en me disant de dégager, que j'ai rien à faire là, que je l'embête. Il me prend par le col, il me repousse, il essaie de me mettre plusieurs coups de poing. Ses amis interviennent assez rapidement, le séparent, lui disent de se calmer, me disent de partir. Je pense que s'ils voulaient me casser la figure et qu'il n'y avait pas eu d'intervention d'autres agriculteurs, clairement, il me cassait la figure. Il était vraiment très, très énervé.
Plus de peur que de mal pour ce journaliste qui reste marqué par l'événement.
Ça m'était jamais arrivé de me faire agresser physiquement et j'ai fait beaucoup, beaucoup de sujets avec des agriculteurs. J'ai jamais eu aucun problème avec eux. Ils étaient très compréhensifs, très gentils. Moi, j'ai vraiment eu ce truc de mais comment je vais faire pour y retourner, en fait. Psychologiquement, j'avais du mal à m'imaginer retourner à l'endroit où c'est arrivé. Je suis jamais retourné sur ce barrage-là.
À quelques kilomètres de là, Benjamin Calves, chef d'édition du journal local La Dépêche du Midi, a vu des agriculteurs répandre du lisier sur ses bureaux. Le lendemain, un homme était arrêté par la police alors qu'il s'approchait dangereusement de sa rédaction avec son tracteur.
Oui, ça a été un peu mal vécu dans le sens où, encore une fois, on est sur le terrain tous les jours. Après plusieurs semaines de mobilisation, il y a vraiment une radicalisation pour certains. Et ce que ne ressentaient pas les journalistes sur le terrain il y a quelques mois de ça, ou en 2024 lors des premières mobilisations, c'est certains acteurs de ces mobilisations qui ne veulent pas s'adresser aux médias. Non, vous êtes les médias, vous êtes à la solde du pouvoir, il n'y a pas de problème majeur, en tout cas, à l'heure actuelle, mais on sent une crispation, on sent une radicalisation pour certains, une grosse défiance.
La presse locale ne semble plus être préservée de ce type de comportement, et ce malgré les liens qu'elle tisse avec les acteurs qui l'entourent. Alexandre Buisine, membre du SNJ, le syndicat national des journalistes, a répertorié une dizaine d'attaques contre la presse locale au cours du mois de janvier.
C'est assez nouveau parce que la presse locale, c'est celle qui est au plus près du terrain et qui est au plus près des agriculteurs, qui raconte la réalité quotidienne des agriculteurs. Donc voilà, c'est d'autant plus incompréhensible. On s'en prend à la presse qui est, entre guillemets, la plus crédible et celle qui raconte au long cours la réalité des agriculteurs, leurs difficultés notamment. On n'a pas d'explication. Je vous dis, il peut y avoir une part de désespoir de la part des agriculteurs, ça ne peut pas justifier ce qu'ils font.
Le syndicat rappelle que toute attaque physique ou verbale à l'égard d'un journaliste est punissable par la loi.
Hugo Dewa pour la chronique Menace sur l'information. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky après une première journée de négociations trilatérales entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abu Dhabi. Les pourparlers de paix doivent continuer aujourd'hui, mais peuvent-ils cette fois donner quelque chose? Notre grand invité international ce matin est le commissaire européen à la défense et à l'espace, Andrius Kubilius, répond à Daniel Valo.
Andrius Kubilius, hello.
Hello.
Des discussions trilatérales se tiennent à Abu Dhabi entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Est-ce que cela peut enfin être le moment décisif pour parvenir à un accord?
Well, we should hope, you know, that really finally Russia will sign for that.
Nous devons espérer que la Russie finira par signer un accord de paix. Mais jusqu'à présent, Vladimir Poutine n'a pas donné beaucoup de signes en ce sens. Donc nous verrons. Nous sommes très favorables à la paix, à une paix juste. Mais ce que fera Poutine, nous ne pouvons pas le prévoir. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signal indiquant qu'ils accepteraient ce qui a été convenu entre la partie ukrainienne, les États-Unis et l'Union européenne. Pour l'instant, nous devons simplement attendre l'issue de ces négociations. Elles viennent juste de commencer.
What will be the outcome of those negotiations?
L'Europe est une nouvelle fois absente de ces discussions. Que devraient faire les pays européens pour revenir à la table des négociations?
Alors les pays de l'Union européenne ont déjà fait beaucoup pour soutenir l'Ukraine. Cela permet aux Ukrainiens de se défendre et d'avoir une bonne position dans les négociations. L'Europe joue ici un rôle important. De leur côté, les Américains essaient de convaincre Poutine d'arrêter la guerre. Nous verrons très bientôt si ces tentatives seront efficaces.
À qui attribuez-vous le revirement de Donald Trump sur le Groenland cette semaine? À Emmanuel Macron et aux pays européens qui ont adopté une ligne ferme, ou à Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, et tous ceux qui pensent encore en Europe que le dialogue avec Donald Trump est la seule voie possible?
Je pense que ce qui a joué, c'est l'unité des États membres de l'Union européenne, avec un message clair indiquant qu'un tel langage de la part des États-Unis est totalement inacceptable. Menacer le Danemark et le Groenland n'est pas une façon de traiter les questions de sécurité au Groenland. Et bien sûr, ce sont les efforts du président Macron, de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui ont finalement produit un résultat. Le président Trump a changé de position. Mais plus généralement, il faut peut-être voir les choses sur le long terme. Nous sommes face à une nouvelle normalité, celle d'une imprévisibilité des initiatives géopolitiques des États-Unis. C'est la réalité que nous traversons et nous devons en tirer des conclusions à long terme. L'une d'elles est qu'il faut bâtir notre propre indépendance, notamment en matière de défense. C'est d'ailleurs ce que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen explique depuis le début de l'année dernière. Et le président Macron en parle depuis presque 10 ans. Aujourd'hui, cette indépendance en matière de défense est l'une des orientations stratégiques sur lesquelles nous travaillons très intensivement.
Mais faut-il adopter tout de même une approche différente face à Donald Trump ? Plus de fermeté de la part des Européens ou le dialogue reste-t-il vraiment la seule option ?
Le dialogue avec nos partenaires transatlantiques est la base de notre relation avec les États-Unis et cela va continuer. Mais nous avons aussi nos valeurs et nos règles. Elles resteront la base de nos actions et de nos réactions.
En tant que citoyen d'un pays balte, comment vivez-vous, Andrius Kubilius, cette nouvelle réalité dans laquelle les États-Unis ne sont plus le même allié qu'auparavant ? Est-ce que vous êtes sûr que si la Russie attaque un pays balte, par exemple, les États-Unis vont le défendre et que l'article 5 de l'OTAN va fonctionner réellement?
Président Trump,
lors du sommet de l'OTAN à La Haye l'an dernier, le président Trump a dit très clairement que les États-Unis respectaient leurs obligations envers l'OTAN. Et nous n'avons aucune raison d'en douter. Mais à long terme, il est clair que nous devons être prêts à faire face à deux défis. D'abord, la possibilité et la menace d'une agression russe. Ensuite, le fait que les Américains, à plus long terme, pourraient déplacer de plus en plus leurs ressources vers la région Indo-Pacifique pour contenir la puissance militaire chinoise. Nous devons donc construire des capacités européennes sur le continent européen. C'est ce que nous faisons. Et il faut aussi rappeler que le traité sur l'Union européenne contient l'article 42.7 qui prévoit une obligation d'assistance mutuelle entre États membres en cas d'agression militaire. Nous devons donc faire notre travail en tant que communauté européenne, tout en espérant que l'OTAN restera une alliance transatlantique forte.
Vous avez récemment plaidé pour la création d'une armée européenne, évoquant même 100 000 hommes. Est-ce que c'est vraiment possible, compte tenu des difficultés actuelles des pays européens à s'unir, ne serait-ce qu'en matière de politique étrangère et de défense ?
J'ai soulevé cette question en pensant au long terme à la possibilité que les Américains réduisent leur présence sur le continent européen. Nous devons être prêts à remplacer certains services militaires que les Américains fournissent actuellement, par exemple les facilitateurs stratégiques, le renseignement spatial, le ravitaillement en vol, les systèmes de commandement et de contrôle. Nous devons investir dans ces capacités. Mais nous devons aussi répondre à une question très claire. Comment remplacer les troupes américaines ? Remplacer cette force militaire ne sera ni facile ni simple. Devons-nous le faire simplement en coordonnant les 27 forces nationales ou devons-nous construire une force militaire européenne distincte sans abandonner les forces nationales mais en disposant d'une force européenne cohérente ? Je vous signale que l'idée d'une armée européenne ou d'une force militaire européenne n'est pas nouvelle. Le président Macron en parlait déjà il y a environ 8 ans. Angela Merkel aussi. Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, était un grand partisan de cette idée. Aujourd'hui, le moment est venu d'apporter des réponses claires sur ce que nous ferons si vraiment les Américains réduisent leur présence en Europe.
Mais les pays européens ne parviennent déjà pas à construire une industrie de défense commune. Comment envisager une armée européenne si l'industrie n'est pas prête à le faire ?
Of course, we have some kind of historical legacy.
Nous avons cet héritage historique d'une fragmentation de l'industrie de défense. Et en effet, c'est un phénomène très problématique. Le rapport de Mario Draghi a d'ailleurs été très critique à ce sujet. Il faudra du temps pour dépasser cet héritage. Mais je vous donne un exemple. Le programme SAFE, récemment mis en œuvre avec 150 milliards d'euros de prêts fournis par l'Europe, ce programme prévoit que 2/3 de l'argent soit consacré au développement ou à l'acquisition conjointe d'armement. Nous devons aussi porter ces questions au plus haut niveau politique européen. C'est pourquoi je souhaiterais que l'on développe l'idée d'un Conseil européen de sécurité, idée proposée auparavant par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il s'agirait d'une plateforme spécifique sur la sécurité et la défense. Un instrument qui permettrait de prendre des décisions efficaces pour nos capacités de défense, tout en surmontant les problèmes de division que vous venez d'évoquer.
Thank you, Andrius Kubilius.
Thanks a lot.
Le Lituanien Andrius Kubilius, commissaire européen à la défense et à l'espace. Il était l'invité de Daniel Valo ce matin. Entretien à réécouter sur notre site www.rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Vous restez avec nous sur la Radio du Monde. Dans une minute, le retour de l'actualité africaine.
Carrefour du Maghreb.
Qui est réellement Mohamed VI?
Juliette Rangeval.
Le roi règne sur le Maroc depuis un quart de siècle, mais il reste mystérieux, insaisissable. Un livre, Mohamed VI, le mystère, offre une plongée dans les arcanes du pouvoir chérifien. Son auteur, le journaliste Thierry Oberlé, est notre invité.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Après les débordements lors de la finale de la CAN contre le Maroc, le Sénégal appelle à l'apaisement. Les premiers ministres des deux pays ont prévu de se rencontrer ce lundi à Rabat. La diplomatie permettra-t-elle de calmer les tensions? Comment tourner la page de cette finale mouvementée? Appelez-nous.